Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Voici le sommaire. L'accès humanitaire de plus en plus réduit dans le Nord Kivu. En cause, les hostilités qui se poursuivent dans le massif, notamment des milliers de déplacés qui fuient l'insécurité, se déversent à Goma et vivent dans des conditions précaires. Province Tanganyika, clôture hier de l'opération de distribution des semences, outils aratoires et de l'argent à environ 500 ménages victimes des inondations qui ont détruit leurs champs. C'était dans la cité de Kabimba, territoire de Kalemi, une œuvre de l'ONG internationale Acted. Et puis, l'invité de ce midi, Jean Mabi Mulumba, directeur général du bureau central de coordination BESECO. Il a piloté une mission conjointe BESECO, OVD et gouvernement provincial sur différents projets exécutés au Kasaï central et rassure que tout est en marche pour finaliser ces programmes pour développer cette province. Avant tout, notez cette manifestation pacifique en ce moment même au centre-ville de la Gombe à Kinshasa. Il s'agit d'une marche organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants pour la paix et la solidarité envers les compatriotes de l'Est, ainsi que le soutien au président de la République pour la restauration de l'intégrité territoriale. La marche est partie de la gare centrale et va jusqu'au palais de la Nation où un mémorandum sera lu et déposé. Madame, Messieurs, bonjour. L'accès humanitaire réduit de plus en plus dans la province du Nord Kivu. Cela fait suite à la poursuite des hostilités qui se poursuivent dans le territoire de Masisi notamment. Les populations sont contraintes de fuir et se déverser dans la ville de Goma qui connaît actuellement un surpeuplement sans précédent. Ces milliers de déplacés vivent dans des conditions précaires. Ils n'ont pas accès aux besoins fondamentaux, déplore Ocha dans son bulletin d'information d'hier mardi. Des détails avec vous. Denise Lukeso.
Selon Ocha, 630 000 personnes déplacées sont privées de l'aide humanitaire, y compris les soins médicaux vitaux aux blessés victimes des affrontements. C'est suite à l'insécurité croissante dans les territoires de Masisi. Des combats qui ont occasionné des nouveaux mouvements de déplacement. Au 7 février dernier, Saki hébergeait plus de 100 000 personnes déplacées. Le site de déplacés Zaïna, situé dans la cité de Saki, a été abandonné par les occupants. Plus de 13 000 personnes déplacées qui vivaient dans ce site ont cherché refuge les uns dans d'autres parties de Saki et d'autres encore dans la ville de Goma. La plupart de ces personnes déplacées vivent dans des conditions précaires et n'ont pratiquement pas accès à la nourriture, à l'eau potable, aux soins de santé et autres besoins fondamentaux, s'indigne Ocha. Au moins 28 civils ont été tués et plus de 60 autres blessés lors des violents affrontements entre l'armée congolaise et les M23 dans le Masisi, selon Ocha qui cite les sources locales. Les affrontements ont également eu un impact sur la route Saki-Bweremana, un axe important reliant les province du Nord et Sud Kivu, désormais inaccessible. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu. Les combats sont signalés depuis ce mercredi matin entre les rebelles et l'armée dans la chaîne de collines surplombant la cité de Chacha et Bweremana dans le groupement de Kamuronza, chefferie de Baoundé, territoire de Masisi. Par ailleurs, les sources de la société civile locale dans la cité de Saké parlent d'une accalmie précaire et précisent que la cité est quasi fantôme après la psychose qui a gagné les habitants hier dans la soirée. Les FARDC maintiennent toujours leur position alors que les rebelles se serait retranché dans d'autres collines avoisinant la cité de Saké. Rendons-nous dans la province de l'Ituri. Environ 4000 agriculteurs qui avaient fui les atrocités des groupes armés ont regagné leur localité d'origine dans les chefferies de Basili et de Walesevankoutou dans le territoire d'Irumu. Selon des sources locales, ces retournés ont repris les activités agricoles suspendues depuis une année suite aux attaques récurrentes des EDF et autres milices locales. Ce mouvement retour est dû aux opérations militaires des forces conjointes FARDC armée ougandaise et au dialogue entre les leaders des groupes armés locaux. Dialogue initié en décembre dernier par l'administrateur d'Irumu avec l'appui de la MONUSCO. Le point avec Isaac Remoyope.
Ce retour des agriculteurs s'est fait progressivement et de manière volontaire depuis l'accalmie observée il y a environ une année au site de Dirumu. Selon l'administration du territoire, environ 3800 retournés sont déjà enregistrés dans les localités de Baïti, Bouliki, Bei, Kipeayo, Mangusu et Ngombenyama sur les axes Commanda Luna et Commanda Mambasa sur la route nationale numéro 4. Ils exercent déjà des activités agricoles et l'élevage pour leur survie. 700 autres agriculteurs sont identifiés à Commanda Centre, leur lieu de refuge et attendent la compagnie accompagnement des autorités pour retourner dans les villages de Bakutchu et Badianga. Ces personnes qui avaient fui les atrocités des rebelles ADF et des groupes armés locaux Mai Mai et Chiniatuna vivaient dans des conditions difficiles à Komanda, à 85 km au sud-ouest de Bunia. Ils ont résolu de regagner leurs milieux d'origine qui sont déjà sécurisés. Des sources officielles renseignent que les forces conjointes FARDC et armées ougandaises sont déployées dans ces zones pour garantir la sécurité de la population après les opérations militaires pour démanteler les bastions des groupes armés. Les casques bleus de la MONUSCO et la police font également des patrouilles pour la protection des civils. Cependant, la présence des rebelles des ADF est encore signalée dans plusieurs autres localités à plus de 40 km de Komanda Centre. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
En plus bref, notez l'arrivée mardi à Kinshasa du président burundais Evariste Ndayishimiye. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission de consultation en sa qualité de président en exercice du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et la région. Aussitôt arrivé, le président Ndayishimiye s'est entretenu avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi à la cité de l'Union africaine et rien n'a filtré de leurs échanges. Province du Tanganyika, je vous l'ai dit dans les titres, fin hier de l'opération de distribution des semences, outils aratoires et de l'argent à près de 500 ménages victimes des inondations qui ont détruit leurs champs. L'opération s'est déroulée dans la cité de Kabimba, territoire de Kalemie, une œuvre de l'ONG internationale ACTED en partenariat avec Action Humanitaire France. Paulin Munanga nous fait le point.
Ce projet est intitulé « Redynamisation du circuit de production, transformation, commercialisation et amélioration de la nutrition dans la zone de santé de Nyemba dans la province du Tanganyika ». La distribution des semences, outils aratoires et de l'argent a été effectuée pendant 2 jours. Gédéon Imanuilonja, l'un des bénéficiaires, exprime sa satisfaction. Nous avons bénéficié des semences comme les maïs, les haricots, l'arachide et d'autres qui sont encore dans des sacs que nous n'avons pas encore ouverts. Et comme outil aratoire, il y a des houes, des râteaux, des pics. En plus, chacun de nous a bénéficié de la somme de 240 000 francs congolais qui va nous permettre d'acheter de la nourriture pour bien travailler. Et l'argent va nous éviter de consommer la semence que nous avons reçue. Nous remercions l'ONG ACTED et notre gouvernement. L'opération s'est bien déroulée, il n'y a pas eu la fraude. Signalons que 4 avenues de la cité de Kabimba ont été ciblées par cette distribution. Il s'agit des avenues Chato, Burkina, Majengo et La Barrière. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Kasaï Central, certaines victimes des inondations et éboulements des terres à la suite des dernières pluies à Kananga disent n'avoir pas reçu l'assistance envoyée par le gouvernement central. La plupart indiquent avoir été enregistrées au départ, mais lors de la remise du cash, leur nom ne s'est retrouvé pas sur les listes. Cette situation inquiète également la société civile locale qui pointe du doigt le ministre provincial de l'urbanisme et habitat qui coordonne cette opération. François Kadima nous en parle.
Cette opération a été initiée à la suite des pluies, dont celle du 26 décembre 2023, qui avait détruit maisons, avenues et tué une vingtaine de personnes. Le gouvernement central avait décidé d'assister les victimes à travers la Caisse des solidarités nationales et de gestion humanitaire de catastrophes. Alors que la remise de cash avait commencé au départ par l'enregistrement des victimes, d'autres disent n'avoir pas reçu cette aide pendant qu'elles se sont également enrôlées. Nous avons été appelés à la commune pour nous enregistrer. On nous a dit qu'il est arrivé. Quand nous sommes arrivés, nous nous rendons compte que les noms ne sont pas sur les listes. Du côté de la société civile, l'on pointe le ministre provincial de l'urbanisme habitat qui doit faire bénéficier cette assistance aux vraies victimes. Daniel Chimanga est un acteur de la société civile.
De pouvoir changer sa stratégie de travail pour permettre à ce que les vraies victimes trouvent leur compte.
Cité dans cette affaire, le ministre provincial de l'urbanisme habitat explique que les victimes ont été tirées par échantillon sur la liste venant des communes. Ce, par rapport à la première tranche d'argent. Willy Wichier.
Nous avons tiré l'échantillon dans chaque commune. Le reste, ils vont attendre l'enveloppe qui va venir avec la deuxième tranche.
Pour cette opération, 3000 victimes ont été enregistrées et selon le ministre provincial de l'urbanisme habitat, 1700 ont été déjà payés à ce jour. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Retournons au Nord Kivu. Un cas d'hermaphrodite d'un mineur a été opéré avec succès localement par un pédiatre chirurgien il y a quelques jours. L'intervention chirurgicale a été effectuée dans une clinique mère et enfant qui prend en charge des malformations congénitales. Cette première expérience à Goma a été saluée par plusieurs personnes parce que désormais la population de Goma n'est plus obligée de se rendre à l'étranger pour la prise en charge des malformations congénitales. C'est un reportage de Sifa Maguru.
C'est une grande joie et une satisfaction d'abord pour la famille de la jeune fille. Cette famille était très inquiète de la situation de leur enfant pour son avenir. Témoignage de sa tante. L'enfant était malade. Les gens nous disaient qu'il était un garçon, que c'est une fille. Il a grandi comme un garçon alors que c'est une fille. Nous n'étions pas contents de cette situation. Ça nous faisait très mal et le docteur l'a opéré. Nous sommes maintenant rassurés que l'enfant garde un seul sexe, le sexe féminin. Et nous remercions Dieu. Vivre pendant 15 ans en tant que transgenre n'était pas facile, nous a expliqué la jeune fille dont nous taisons l'identité. Celle-ci vivait cachée dans sa communauté des peurs d'être sujet de stigmatisation. Aujourd'hui, je me sens fière et contente de retrouver mon identité féminine, a avoué la jeune fille dans son témoignage. Satisfaction également pour le docteur Anderson Kibanja, spécialiste en chirurgie pédiatrique qui a effectué cette intervention. Il explique que cet enfant porte des organes génitaux internes féminins, bien que physiquement elle présentait deux sexes.
Nous avons d'abord conclu à une anomalie de développement sexuel. Nous avons décidé de faire une génitoplastie féminisante.
D'après ses médecins, son centre médical a juste besoin d'un appui des autorités afin d'aider la population pour des problèmes de malformations congénitales. Goma, Sifa Maguro, Radio Okapi.
Rendons-nous au Kasaï oriental. Une partie de la ville de Mbujimayi est plongée dans le noir depuis 3 jours. Cette situation touche principalement les bureaux administratifs et les habitations alimentées en électricité par l'entreprise énergie du Kasaï, NRK, qui commercialise l'énergie à Mbujimayi. Les responsables de NRK demandent à la population de prendre des dispositions et de payer les factures pour permettre à l'entreprise de faire face aux difficultés. Esther Ndalafina.
Les quartiers plongés actuellement dans les noirs sont la ville Miba où résident plusieurs autorités provinciales, le bureau administratif, quelques maisons commerciales des communes de Djoulou et de la Mouya installées au centre-ville ainsi que les maisons résidentielles de la commune de la Kanchi. Dans un communiqué publié lundi dernier, la société énergie du Kasaï NRK a annoncé à sa clientèle que les pannes sont survenues vendredi et lundi dernier sur 2 machines de la centrale hydroélectrique de Tchala. Les responsables de NRK indiquent que les techniciens sont à pied d'œuvre pour décanter rapidement cette situation. Mais déjà, on enregistre quelques conséquences, dont notamment le manque d'eau dans certains quartiers de la ville et la consommation des bières non refroidies dans les terrasses. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Restons au Kasaï oriental pour signaler que la mairie de Mbujimayi instaure de nouveau le paiement de la taxe de péage et de stationnement. Les engins à 2 et à 4 roues qui circulent dans la ville de Mbujimayi doivent payer quotidiennement 500 francs congolais comme taxe de stationnement et de péage. D'après le maire adjoint de Mbujimayi, le paiement s'effectue dans l'avant-midi d'une manière électronique auprès des agents déployés sur terrain par la mairie. Les agents des services de transport de la mairie interviennent l'après-midi pour le contrôle de paiement de la dite taxe. Pour Patrick Mukendi, le système de paiement électronique permet à la mairie d'avoir des statistiques réelles des engins mis en circulation dans la ville. Il permet aussi d'identifier rapidement la destination d'un engin volé.
Actualité internationale.
Nous sommes au Sénégal. Le gouvernement sénégalais suspend l'accès aux données mobiles dans le pays. La mesure a été prise alors que le collectif Protégeons nos élections avait appelé à une marche contre le glissement du calendrier électoral. L'accès à Internet avait déjà été restreint depuis au moins 8 jours pendant que le Parlement s'est prononcé sur le report de la présidentielle. Les autorités sénégalaises justifient ces restrictions par la diffusion sur les réseaux sociaux des messages de haine subversifs qui ont déjà provoqué des violentes manifestations. La semaine dernière, au moins 3 manifestants ont été tués.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le directeur général du Bureau central de coordination BESECO, Jean Mabimou Lumba, a piloté une mission conjointe BESECO-OVD, Office des voiries et drainages, et gouvernement provincial du Kasaï oriental sur différents projets exécutés dans cette province. C'est notamment la voirie urbaine, la route Kananga-Kalambambouji et la construction de la centrale hydroélectrique des chutes Mbombo. Face à une population qui s'inquiète du fait que ces différents projets piétinent, Jean Mabi souligne que toutes les batteries sont mises en marche pour finaliser tous ces programmes qui visent le développement du Kasaï de cette province. Jean Mabimou Lumba s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Jamadi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez mené une mission conjointe, PCCO, OVD, gouvernement provincial, sur différents projets menés au Kasaï central. Alors, quelle évaluation faites-vous à la suite de cette mission conjointe?
Suite aux dégâts causés par les pluies qui se sont battues dans la ville de Kananga le 26 décembre 2023, il était tout à fait normal qu'on fasse une mission conjointe OVD et Beseco pour évaluer en fait l'impact de ces dégâts sur les voiries sur lesquelles nous travaillons. Comme vous le savez, l'OVD ainsi que Beseco, nous sommes impliqués dans les travaux de réhabilitation et modernisation de la voirie à la ville de Kananga. D'abord, il y a eu un constat de satisfaction dans la mesure où la partie sur laquelle nous travaillons en termes de réhabilitation des voiries n'a pas été affectée. Mais par contre, les autres parties qui ont été affectées sont en fait liées au fait que les collecteurs qui étaient sur ces tronçons, c'était des vieux collecteurs construits depuis l'époque belge. Alors qu'à cette époque-là, le nombre d'habitants était assez normal pour contenir en fait les collecteurs. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation de population et des maisons, on n'a pas pu actualiser ou moderniser ces collecteurs-là. Donc, raison pour laquelle, en fait, on voit à travers la ville plusieurs têtes d'érosion, ainsi de suite. Ce qui me rassure, en fait, est que c'est pour certaines érosions menaçantes, l'OVD a déjà pris des dispositions pour pouvoir les arrêter et les gérer.
Vous avez à la suite d'un échange avec les communautés, la presse, revenu sur les projets exécutés ou pilotés par Beseco. Parmi les grands projets que le centre kassaïen attend, c'est la route Kananga-Kanamambouji. La population s'est dit ne pas être satisfaite, surtout que la voie s'est encore dégradée. Donc il y a l'entreprise Towa qui travaille. Qu'est-ce qui ne marche pas sur la voie?
Bon, nous devons d'abord savoir que cette route est capitale pour la province, mais également pour le Grand Kassaï. Cette route présente d'énormes défis qui font que, bon, la population doit être patiente. Parce que d'abord, c'est une route en terre qu'on veut stabiliser. On veut stabiliser pour la rendre carrossable. Et ça nécessite à ce que pendant qu'on travaille, pendant que l'entreprise travaille, mais que l'entreprise aussi ait un service pour l'entretien et la maintenance de la route. Plus l'entreprise avance, il y a un autre atelier, comme on dit, en fait, un autre atelier qui vient petit à petit essayer de réparer un peu les dégâts tout autour. La dernière visite ici, c'était en novembre 2023. Nous avons fait le tour avec le gouverneur, nous sommes allés jusqu'à Bilomba. Ce qui était beaucoup plus satisfaisant pour nous, en fait, déjà, Bilomba, Kananga, Bilomba, ça fait à peu près 105 et 110 kilomètres. Nous l'avons parcouru en 2h30, alors que jadis, avant que l'entreprise ne se mette, ces tronçons-là, le jeep faisait 2 à 3 jours sur la route. Ça, c'est ce qui est de positif. Mais on avait quand même trouvé quelques points chauds. Mais dans le cadre du contrat de l'entreprise, l'entreprise était amenée justement à traiter ces points chauds. Vers mi-décembre, les experts de l'entreprise sont allés en vacances. Après, ce sont les pluies qui se sont abattus. Les mêmes pluies ont causé des dégâts. C'est tout à fait normal qu'on se retrouve sur cette route-là qui est en terre, qui est aussi des dégâts. Mais le plus important est que d'abord, c'est la prise de conscience. L'entreprise a pris conscience pour pouvoir réparer ou réhabiliter les parties assez endommagées très rapidement.
Est-ce que c'est un problème de financement?
Ici, le problème se pose au-delà du financement, parce que quand on fait une route, on s'assure qu'il y a tous les matériaux le long de la route. Je donne l'exemple. Tout au long de la route, pour stabiliser la route, il faut de la latérite. Mais la latérite, on a des gisements ou des carrières qui sont épuisées. Parce que la latérite là n'est pas renouvelable. Donc il faut aller, au lieu plutôt de faire des trajets de 5 km, il faut aller à 30 km chercher la latérite. Tout ça, ça fait que le travail se passe au ralenti. L'autre difficulté sur cette route est que pendant que les travaux se font, le trafic est ouvert. Ça ralentit aussi l'évolution des travaux.
Parlons d'électrification, Katende, ça traîne, vous êtes à l'œuvre pour faire marcher Chitombo. Vous avez fait plusieurs descentes sur les lieux. Qu'est-ce qui se passe et quand est-ce que les travaux vont démarrer?
Je pense qu'au niveau de Chitombo, je suis confiant. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution. On ne peut pas commencer la construction du barrage sans avoir finalisé les études environnementales. Alors, l'option qui a été levée est que d'ici là, nous allons lancer les travaux pour réhabiliter la route d'accès. Ça fait à peu près 10 km pour permettre à l'entreprise aussi de faire venir ses engins. Nous sommes convenus avec les prestataires de signer le contrat le 15 février pour qu'une semaine après, l'entreprise se déploie. D'ici, avant la fin de ce mois, nous verrons les travaux démarrer.
Monsieur Jean Mabé, nous vous disons merci.
Merci.
Voilà, c'était là notre invité, le directeur général du Bureau central de coordination Beseco. Il s'entretenait avec François Kadima. Par ici, prend fin ce journal, supervisé par Martin Sebujangwe, coordination d'Élisée Chikota, Mimi Kindou à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.